RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Baptiste Madinier.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, une loi logement très controversée. Elle a été présentée aujourd'hui et vise notamment à régler le problème du logement social, sauf qu'elle fait l'unanimité. Contre elle, nous y revenons dans un instant. L'isolement d'Israël s'accentue sur le plan international après la rupture des relations commerciales avec la Turquie. Et puis, quel rôle va jouer la chanteuse Taylor Swift dans la présidentielle américaine? C'est la question qu'on se pose dans notre long format du soir. Régler la crise du logement, c'était l'une des priorités annoncées par Gabriel Attal lors de sa nomination, et son ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, vient de poser la première pierre de cette ambition avec un projet de loi présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Sauf que ces propositions suscitent une levée de boucliers étonnamment unanime de tous les acteurs du secteur. Parmi les critiques, notamment un assouplissement de la loi SRU. C'est cette loi qui obligeait jusque-là les villes à avoir entre 20 et 25% de logements sociaux, obligation qui est globalement non respectée. Alors pour rentrer dans les clous, le gouvernement propose désormais d'inclure dans ce pourcentage les logements intermédiaires. Sauf que ces logements présentent des loyers plus chers. C'est donc un non-sens selon Guillaume Eschelmann, chargé de mission logement social à la CLCV.
Parmi les demandeurs actuels de logements sociaux, seulement 3% peuvent se permettre de loger dans un logement intermédiaire parce que les loyers sont trop élevés. À titre d'information, un logement intermédiaire, en moyenne, c'est un loyer de 20 euros du mètre carré. Donc, si vous avez un 50 mètres carrés, vous allez payer 1000 euros de loyer plus les charges. Beaucoup de ménages ne peuvent pas se le permettre. 70% des demandeurs de logements sociaux actuellement vivent avec moins d'un SMIC. Sachant qu'en plus, ces logements intermédiaires, si on les construit, ce sera de l'argent en moins pour les bailleurs sociaux pour construire des vrais logements sociaux. Or, ce dont on a besoin, c'est justement des logements abordables, pas des logements qui, au final, ne trouveront pas preneur parce qu'ils sont de manière très marginale moins chers que le parc privé et qu'ils sont inabordables pour ceux qui ont vraiment besoin d'un logement. Ce qui aurait été plus logique, c'est de renforcer la loi SRU, notamment en renforçant les pénalités pour les maires qui ne construisent pas, et permettre au préfet de prendre le contrôle des permis de construire dans les communes où il y a un manque cruel de logements sociaux.
Des propos recueillis par Suzanne Marion. Dans le reste de l'actualité ce soir, au Proche-Orient, un otage israélien est mort. L'annonce a été faite par les autorités israéliennes ainsi que des proches. Dror Or avait été enlevé dans son kibboutz le 7 octobre dernier. Sa femme a été tuée lors de l'attaque et deux de leurs trois enfants avaient également été kidnappés avant d'être libérés fin novembre. Par ailleurs, les négociations pour une trêve ainsi que la libération d'autres otages n'ont pas avancé depuis hier. Les négociateurs du Hamas doivent revenir dès que possible en Égypte, selon les dernières déclarations du groupe terroriste. Sur le plan diplomatique, je vous le disais, Israël achève une nouvelle semaine très compliquée. L'État hébreu a vu son isolement sur la scène internationale s'accroître un peu plus. D'abord avec la rupture des relations avec la Colombie hier, toutes les relations diplomatiques, puis l'annonce par la Turquie de la suspension des relations commerciales avec Jérusalem. Focus ce soir avec Étienne Pépin.
Le président colombien Gustavo Petro a justifié la rupture des relations diplomatiques avec Israël par le caractère génocidaire du gouvernement Netanyahou dans la conduite de la guerre à Gaza. En employant ces mots, il s'inscrit dans la ligne du président brésilien Lula, qui a même fait un parallèle en février dernier entre l'Holocauste et la réponse militaire à Gaza. Il emboîte également le pas à la Bolivie et au Belize, deux pays d'Amérique latine qui ont rompu leurs relations avec Israël. La plupart des pays d'Amérique du Sud reconnaissent l'état de Palestine dans ses frontières de 1967. Pour beaucoup d'États de la région, ce conflit au Proche-Orient incarne la guerre de colonisation. En tant qu'ancien pays colonisé, beaucoup portent dans leur histoire cet attachement à la souveraineté et à l'autodétermination. Si la Palestine meurt, l'humanité meurt, a d'ailleurs lancé le président colombien. Du côté de la Turquie, la rupture des relations commerciales avec les Israéliens répond à des questions d'alignement politique. Le président Erdogan est l'une des voix les plus critiques critique de la guerre menée à Gaza, il était pressé par sa population de lier la parole aux actes en coupant les liens commerciaux.
Merci beaucoup Étienne. Et cette rupture des liens commerciaux pourrait avoir des conséquences importantes pour Israël. On estime que plus d'un tiers des besoins en pétrole de l'État hébreu transitaient encore récemment par un port turc de la Méditerranée. Les forces de l'ordre sont intervenues ce matin à Sciences Po Paris pour déloger des militants pro-palestiniens qui occupaient le site depuis la veille. Les locaux historiques de l'école sont restés fermés aujourd'hui. D'autres campus, surtout de Sciences Po, ont été évacués également dans la journée, notamment à Lyon, Saint-Étienne ou Lille. Cet après-midi, près de 200 personnes étaient rassemblées devant la Sorbonne. L'Allemagne ainsi que la République tchèque accusent Moscou d'avoir coordonné une série de cyberattaques dans leur pays. Berlin et Prague pointent la responsabilité d'un groupe de hackers russes contrôlé par Moscou. La Russie dément. L'Union européenne promet de répondre à ces comportements malveillants. Et puis The Dark Side of the Moon, 50 ans après les Pink Floyd, c'est maintenant l'objectif de la Chine. Pékin vient de lancer une sonde pour collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune. Si le programme fonctionne, il constituera une première mondiale, arrivée normalement prévue en juin. C'est la star planétaire, vous l'avez peut-être reconnu, c'est aussi le sujet de notre long format du soir. La chanteuse américaine Taylor Swift, elle sera en France la semaine prochaine. Et à 34 ans, cet artiste, désormais milliardaire, accumule les records. L'influence de Taylor Swift ne concerne pas seulement le monde culturel, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est son influence sur le monde politique dans l'optique de la présidentielle américaine. Et on décrypte cela avec Jean-Baptiste Labeur. Bonsoir.
Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous.
Alors d'abord, pour ceux qui encore ne la connaîtraient pas, qui est Taylor Swift, Jean-Baptiste ?
Alors Taylor Swift vient d'une famille catholique, elle a débuté dans la country, ce style de musique très populaire aux États-Unis, notamment dans l'Amérique profonde, avant d'engager un virage pop en 2010. Couronnée au dernier Grammy Award pour la quatrième fois, Taylor Swift est devenue incontournable aux États-Unis. Le Time Magazine l'a d'ailleurs désignée personnalité de l'année en 2023.
Et c'est quoi la recette du succès ? Pourquoi Taylor Swift attire autant de fans ?
Les fameuses Swifties, eh bien parce qu'elle cultive le naturel dans son style et dans sa musique. C'est presque une bonne copine, explique Anne Sweet, docteur à l'université Sorbonne Nouvelle et enseignante à l'école des Ponts et Chaussées. Elle est spécialiste des médias américains.
C'est vrai qu'elle a une image de copine, elle a une musique très personnalisée. Elle s'inspire de son vécu, de ses sentiments. Donc, du coup, les gens s'identifient avec elle. Elle ne se positionne pas en tant que, on va dire, fille populaire, alors qu'elle est, qui a toujours réussi, mais plutôt elle démontre ses souffrances, ses difficultés. Et à travers ses chansons, elle raconte une histoire, l'histoire de sa vie. Les gens s'identifient avec elle au plan émotionnel, sentimental. Et donc, effectivement, elle se positionne comme la copine. J'ai vu que parfois, elle commence les concerts en disant « Bonjour, hi, I'm Taylor. Bonjour, je m'appelle Taylor. » Comme si elle est madame tout le monde. Donc, c'est touchant pour les gens.
À cela s'ajoute le poids colossal des réseaux sociaux. Elle compte des centaines de millions de followers, souligne Lorik Henton, maître de conférences en histoire et civilisation anglo-américaine à l'université de Versailles.
Sur Instagram, elle n'est pas loin des 300 millions. C'est-à-dire pratiquement, bon, c'est sur le monde entier, mais c'est pratiquement la population des États-Unis. Comparativement, quelqu'un comme Joe Biden, il n'est pas forcément très prescripteur en contenu Instagram, c'est-à-dire en photo, mais il a 17 millions d'abonnés. Donald Trump a du temps de sa splendeur sur Twitter, il avait 88 millions d'abonnés, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux quasiment 300 millions d'abonnés de Taylor Swift.
Alors on comprend mieux pourquoi chacune des prises de parole de Taylor Swift est scrutée de si près. Pour autant, Jean-Baptiste, a-t-elle un réel pouvoir, un réel poids sur la présidentielle américaine ?
Eh bien, en 2016, elle n'avait pas soutenu Hillary Clinton face à Donald Trump, mais Taylor Swift avait ensuite affiché son soutien pour les démocrates en 2018, lors des midterms, puis à Joe Biden en 2020. Elle est clairement dans le camp progressiste, mais officiellement, cette année, elle ne soutient encore aucun candidat. Lors des primaires, elle a toutefois appelé ses fans à voter pour le Super Tuesday. Et en septembre dernier, Taylor Swift avait invité ses abonnés Instagram à s'inscrire sur les listes électorales. La plateforme vote.org avait sauté ce jour-là, rapidement.
En réalité, c'est 35 000 inscriptions sur les listes électorales. Alors, sur un pays de 300 millions d'habitants, c'est finalement pas tant que ça. C'est assez marginal. Mais c'est toujours ça de prix, d'une certaine manière. Donc, c'est bon pour la démocratie, puisque ce sont des gens qui, a priori, ne l'auraient pas fait. Et surtout, on est dans un régime, à présent, d'élections ultra serrées dans une poignée d'États. Et donc, il suffirait d'un apport modeste, voire assez négligeable, qu'est-ce que c'est que 35 000 voix, pour qu'un État clé puissent basculer d'un côté ou de l'autre. Une élection qui se joue à 10 000 voix, ça veut dire qu'il y a 5 000 électeurs qui ne votent pas d'un côté, mais votent de l'autre. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on est dans des marges qui sont ridiculement petites. Et donc, tout coup de pouce que Taylor Swift ou d'autres pourraient opérer par leur puissance sur les réseaux est bon à prendre pour un côté ou l'autre.
On comprend pourquoi donc la Maison-Blanche verrait d'un très bon œil le ralliement de Taylor Swift.
Évidemment, cela pourrait dynamiser la candidature de Joe Biden auprès des jeunes. Pour cette deuxième manche, l'électorat ne sera pas le même qu'il y a 4 ans. 41 millions d'Américains en âge de voter, dont 8 millions de primo-votants, feront partie de la génération Z entre 18 et 27 ans. Une catégorie que Taylor Swift, par ses prises de position, notamment féministes, est de nature à rallier potentiellement, estime Anne Sweet.
Elle a parlé aussi de la porte aux armes, elle s'intéresse aussi au climat. Ce sont des choses qui tiennent au cœur beaucoup de jeunes. C'est pas parce que Taylor Swift a dit quelque chose, les gens vont la faire, ils vont la penser, mais ça peut créer une ouverture d'esprit, ça crée une polémique. Lorsqu'une star dit quelque chose, même sur les réseaux sociaux, c'est repris par les médias, donc ça crée des discours publics autour d'un sujet. Donc si elle parle des sujets qui touchent les femmes, comme l'avortement, après ça crée toute une médiatisation de ce qu'elle a dit, qui peut avoir un impact très important.
Reste à voir toutefois quelle est la part des fans de la chanteuse déjà convaincus de voter démocrate.
Et qu'en pensent les républicains ainsi que Donald Trump, Jean-Baptiste ?
Alors en 2020, Trump avait dit l'aimer un peu moins après qu'elle ait annoncé son soutien à Biden. Alors Taylor Swift inquiéterait-elle le camp républicain ? Réponse de Laurie Kenton.
Ce qui est nouveau, c'est qu'on n'a jamais vu la presse conservatrice, que ce soit Fox News ou d'autres, encourager des gens comme George Clooney ou Bruce Springsteen de faire un peu moins campagne pour les démocrates. C'est vraiment quelque chose de nouveau et ça témoigne de l'impact de la surface médiatique, si l'on veut, de Taylor Swift.
Reste maintenant la question du timing pour l'annonce d'un soutien.
Oui, et ce n'est pas anodin, justement, par rapport à ce que l'on disait sur l'influence des réseaux sociaux, l'annonce d'un éventuel soutien à Joe Biden aurait un effet, mais limité dans le temps, un feu de paille médiatique.
Voilà, il faut donc bien choisir son moment pour annoncer son soutien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Labeur pour ce dossier à retrouver en intégralité sur rcf.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique ce soir. Bonne soirée à l'écoute de RCF.